France Inter. Allons-y.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Es.
Un jour dans le monde, c'est un jour avec le fils du commandant Massoud ce soir.
This is an NBC News special report.
The Pentagon just announcing that the last US troops have withdrawn from Afghanistan.
Le moment qu'on a voulu mettre en avant, c'était il y a presque 4 ans, 30 août 2021, le départ chaotique des Américains, c'est le dernier avion. Ce 30 août 2021, les talibans sont déjà là évidemment et on sait ce qui s'est passé derrière. Bonsoir Ahmed Massoud.
Bonjour.
Merci beaucoup.
Thank you so much for having me.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous n'avez pas 40 ans, Monsieur Massoud. Vous vivez en Asie centrale. Évidemment pas en Afghanistan. Ce serait dangereux pour votre vie. Vous dirigez un mouvement qui s'appelle le Front National de Résistance aux Talibans qui tient sur votre nom. Est-ce que 20 ans après la mort de votre père, 4 ans après le retour des talibans, ce nom-là reste la puissance nécessaire pour emmener un mouvement d'opposition ?
Évidemment, malheureusement, après le retrait des forces américaines d'Afghanistan, après une très mauvaise négociation avec les talibans, le peuple afghan voit ce retrait comme une trahison, malheureusement. Les talibans ont eu 4 ans pour montrer au monde qu'ils avaient changé, qu'ils n'étaient plus les mêmes talibans que dans les années 90, qu'ils étaient prêts à travailler avec le peuple afghan. Qu'ils avaient une feuille de route pour l'avenir de l'Afghanistan, ils voulaient mettre en place une constitution et ils voulaient mettre en place un gouvernement. Mais malheureusement, ce qu'on a dit dès le premier jour s'est avéré être vrai. Après 4 ans, les talibans n'ont absolument pas changé. Et non seulement ils n'ont pas changé, mais leurs relations avec les groupes terroristes se sont renforcées. Ils oppriment les femmes afghanes par millions. Ils les empêchent d'aller à l'école, ce qui est vraiment abasourdissant. Aucun autre pays au monde n'empêche la scolarisation des filles. Ça ne se passe qu'en Afghanistan.
Et pourtant, vous l'avez dit, vous avez parlé de trahison, vous avez parlé de ce départ chaotique. Et pourtant, aujourd'hui, la communauté internationale semble-t-il, a accepté les talibans, peut-être par défaut, mais les a acceptés, y compris d'ailleurs s'agissant des voisins immédiats qui n'ont pas intérêt, j'imagine, à voir un pays à leur porte qui est à feu et à sang. Êtes-vous le pays sacrifié, Ahmed Massoud, et pourquoi n'y a-t-il, selon vous, aucun levier aujourd'hui contre ces talibans ?
C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous dire qu'il y a des leviers, et le levier, c'est le peuple d'Afghanistan avant tout. La deuxième chose que je tiens à vous dire, c'est que le peuple afghan n'a pas accepté les talibans. S'ils avaient accepté les talibans, ce serait, comme l'a dit Ahmad Hashan Asulia, ils auraient fait une élection au bout de 5 ans. Ce n'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Les talibans refusent catégoriquement les élections parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucun ancrage dans le peuple afghan. Donc, lorsqu'il s'agit du monde, ils sont peut-être occupés en Ukraine ou dans d'autres crises de par le monde. Mais pour le moment, ils ont montré qu'ils n'acceptent les talibans que parce qu'ils n'ont pas de politique claire à l'égard de l'Afghanistan ou parce qu'ils sont occupés ailleurs. Et même les pays voisins de l'Afghanistan, même ceux qui avaient une très bonne relation avec les talibans auparavant, on voit qu'ils se distancient peu à peu des talibans. Pourquoi ? Parce que les talibans ont apporté la preuve du fait qu'ils ne sont pas un groupe accepté par le peuple afghan, et aussi ils ont généré des situations en Afghanistan qui sont très dangereuses pour les pays voisins de l'Afghanistan. Par exemple, l'attaque au Pakistan. Le Pakistan a servi de havre aux talibans pendant 20 ans. Il y a eu une attaque au Pakistan après la prise de pouvoir des talibans. Il y a eu une augmentation de 300% des attaques au Pakistan depuis la prise de pouvoir des talibans. Pourquoi ? Parce que les talibans talibans permettent à un groupe TTP, un groupe de talibans pakistanais, d'attaquer le gouvernement pakistanais sur ces terres. Donc ils n'ont même pas de légitimité régionale. L'approche actuelle des talibans est tactique, elle n'est pas stratégique. Mais je suis d'accord avec vous pour dire qu'aucun pays, ni les superpuissances, ni les pays mitoyens, n'ont une véritable feuille de route pour l'avenir de l'Afghanistan. Et c'est notre rôle à nous de dire que nous, le peuple afghan, nous avons cette feuille de route en tête, nous sommes en train de la créer, et j'espère que le monde y prêtera attention.
Est-ce que vous diriez que les dirigeants afghans y ont malgré tout une part de responsabilité? Il y en a un certain nombre d'anciens dirigeants qui sont restés à Kaboul, c'est le cas d'Hamid Karzai, c'est le cas d'Abdullah Abdullah, il y en a d'autres qui sont partis, l'ancien président, lui, est parti, vous êtes resté un temps, et puis vous avez fini aussi par quitter le pays. Est-ce qu'on se dit aussi, et c'est peut-être ce que se dit la communauté internationale, que décidément, un groupe d'opposition intérieure n'arrive pas à se former, n'est pas mûr pour être formé aujourd'hui, et c'est pour ça que plus personne ne bouge non plus?
Alors, je ne suis pas d'accord avec cette idée. Sur la première partie de ce que vous avez dit, oui, les politiciens afghans sont responsables à parts égales de la situation afghane comme les partenaires internationaux, et ça, nous l'avons déjà dit. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de l'opposition, à la fois les hommes et les femmes d'Afghanistan, au sein de l'Afghanistan, ont montré qu'ils ont le courage, l'énergie, et l'envie de se battre pour la liberté, pour la démocratie. Ce qu'ils n'ont pas, c'est le soutien international. Vous avez vu les femmes d'Afghanistan manifestées dans les rues de Kaboul. Elles ont fait face à des représailles brutales, de la torture. Et la communauté internationale n'a rien dit. Regardez les rapports qui viennent du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'UNEMA, sur le comportement extrêmement brutal des talibans en Afghanistan. Malheureusement, le monde ne prête pas attention à ce qui se passe. Alors, c'est peut-être la faute des anciens dirigeants, peut-être la faute des partenaires internationaux, mais ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, les victimes sont le peuple afghan, et eux ne veulent pas des talibans. Les hommes résistent à leur manière, les femmes résistent à leur manière, et le corps politique aussi, à sa manière, résiste. Personne n'accepte les talibans, mais comme vous l'avez dit, vous avez raison, nous sommes très seuls dans cette lutte contre le terrorisme international. N'oublions pas qu'il y a 21 groupes terroristes actuellement actifs en Afghanistan, pas juste les talibans, 21 groupes terroristes actifs à la fois régionaux et internationaux.
Je comprends que vous avez le sentiment qu'au fond, l'Afghanistan ne fait plus peur à la communauté internationale, et c'est pour ça qu'elle n'est pas là. J'entends que vous nous dites qu'il faut continuer à avoir peur parce que le terrorisme y est revenu, mais regardez par exemple du côté des États-Unis, l'Amérique de Trump aujourd'hui, qui n'a aucune intention de se mêler de l'Afghanistan comme d'ailleurs, qui a aussi rajouter l'Afghanistan sur la liste des pays interdits. Est-ce que vous vous dites, ou vous n'êtes pas le bienvenu non plus d'ailleurs, vous, Ahmed Massoud, est-ce que vous vous dites aujourd'hui que les États-Unis, par exemple, il faut faire une croix dessus? Il ne faut plus jamais imaginer que les États-Unis pourront un jour vous aider.
J'ai été invité en réalité plusieurs fois aux États-Unis. Je pense que la politique que les États-Unis avaient avant n'était pas favorable en réalité à mon pays. Par exemple, les Américains donnaient presque 80 millions de dollars par semaine aux talibans. Et nous pensons que c'est quelque chose qui a renforcé les talibans, leur a permis de se consolider et les a encouragés à opprimer le peuple afghan. Et donc, une chose que j'aimerais dire très clairement, tout comme mon père qui est venu en France pour prévenir le président Bush en 2001, pour les mettre en garde contre ce terrorisme, nous ne voulons pas nous battre uniquement pour notre pays. Il faut qu'on ait une politique Sur la base de ce que vous dites, depuis ce dont vous parlez depuis des années et des années, les droits des femmes, la démocratie, la liberté, nous nous sommes battus ensemble pour ces valeurs. Tout ce qu'on veut actuellement, c'est de rester sur ces valeurs et que les talibans remplissent les promesses qu'ils ont faites de ce point de vue. Pourquoi est-ce qu'on continue de donner de l'argent aux talibans alors qu'ils ignorent systématiquement les droits des femmes afghanes?
Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait couper intégralement l'aide internationale? Parce qu'il y a effectivement, vous le dites, encore de l'aide internationale qui arrive, sinon votre pays risque de mourir de faim. Est-ce qu'il faudrait arrêter cette aide internationale pour envoyer ce signe-là?
Non, pas du tout. Nous l'avons aussi dit précédemment, le soutien international peut arriver auprès du peuple afghan via différents canaux au lieu de le donner directement aux talibans. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a aussi fait des rapports qui l'ont démontré. La manière dont c'est fait actuellement renforce les capacités militaires des talibans et renforce donc les talibans. Même M. Trump l'a dit lors de sa campagne. C'est donc ce genre de politique et ne pas être fidèle à ses valeurs, à ses principes, ne pas mettre les talibans qui commettent des crimes contre l'humanité face à leurs responsabilités en les sanctionnant, ne pas exercer de pression politique sur les talibans. Sans ces mesures, les talibans sont à la fête. Je ne demande pas de troupes en Afghanistan et mon père ne voulait pas de cela non plus. Nous voulons des actes politiques forts sur la base de principes que nous partageons.
Votre groupe, Ahmed Massoud, s'appelle le Front National de Résistance aux Talibans. C'est ce que je disais, c'est un groupe armé qui est actif de quelle manière, avec quels moyens, avec quelles armes, avec quelles troupes? Et surtout, est-ce que ça veut dire que seule la réponse armée en l'état vous semble avoir du sens?
Front de résistance nationale que nous menons a commencé après que les talibans aient refusé tout dialogue, toute négociation. Si un régime ou un groupe qui est au pouvoir refuse tout type de dialogue, alors nous n'aurons d'autre choix que de lutter contre eux de manière armée. C'est toujours le groupe qui est au pouvoir qui dicte la manière dont on peut s'opposer à lui. Actuellement, les talibans sont au pouvoir et ils dictent leur loi par l'usage de la force, par la force des armes. Nous n'avons pas de moyens de nous exprimer. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'inclusion, il n'y a pas de représentation populaire. Et donc, le seul moyen que les talibans nous ont laissé en attaquant notre peuple, c'est la résistance armée. Tout comme les nazis ont attaqué la France et la résistance française s'est faite de manière armée face à cela.
Fun fact.
N'oubliez pas que la résistance de mon père, qui a commencé contre les talibans dans les années 90, le modèle de mon père, c'était Charles de Gaulle et la résistance française.
Et pour les Afghans, d'ailleurs, le rôle modèle, le héros indéboulonnable, reste effectivement votre père. Il y a encore des photos de votre père dans ce pays, l'Afghanistan. Est-ce qu'ils vous connaissent, vous? Est-ce qu'ils savent ce que vous faites?
J'aimerais que la situation soit telle qu'on puisse avoir des élections. J'aurais aimé en apporter la preuve via un processus électoral. Le peuple afghan aime toujours beaucoup l'idée de la démocratie, c'est pour ça qu'ils nous soutiennent. C'est pour ça qu'après 4 ans d'abandon par le monde, nous sommes toujours un mouvement fort et la résistance est en fait étendue. Nous étions dans une seule province et maintenant nous sommes présents dans 22 provinces. Et c'est uniquement en raison du soutien du peuple afghan. Personne d'autre. Ce qui montre que le peuple nous soutient. Le seul problème auquel nous faisons face, c'est malheureusement le manque de soutien. Car nous ne combattons pas que les talibans, comme je l'ai dit, nous combattons 21 groupes, organisations terroristes qui combattent aux côtés des talibans. Nous avons des preuves vidéo de cela. Nous pouvons vous les montrer si vous le souhaitez. Lorsque les talibans ont attaqué une position dans une vallée, ils ont attaqué avec des terroristes pakistanais d'Asie centrale également.
Ahmed Massoud, j'espère que quand vous reviendrez, vous serez un Afghan dans votre pays, l'Afghanistan, et que vous pourrez nous raconter sa transformation. C'est en tout cas ce qu'on espère pour vous. Merci beaucoup de votre passage chez nous. Merci vraiment. C'est Victor Hacher qui a assuré la traduction.
Thank you very much. We'll see you soon in Afghanistan.
Ben, j'espère aussi. Merci beaucoup. La suite, ce soir, ça se passe en Turquie. C'est le reportage et vous découvrirez quelle est la poubelle de nos déchets plastiques. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, il y a Kevin Dufraîche sous les radars.
En Inde, tarentules, tortues et autres opossums dans les soutes d'un avion.
Le Monde à 18h50 et Frédéric Saïs. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Fabienne. Comment une petite ville du nord de l'Espagne nous raconte un changement d'époque.
Et Caroline Gillet, Caroline au pays des 27.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Gaia Manco, une flamboyante italienne qui s'occupe du lien entre le Parlement européen et les parlements nationaux.
Allez, à tout
oui,
de suite.
Ce poste existe.
Voilà, tout de suite les amis, pardon Caroline, le tour de la planète n'est pas fini, il fait escale en Italie avec la playlist d'Inter et l'italien préféré de Giubaga, Andrea Laszlo De Simone, La Notte. Vous êtes dans Un jour dans le monde et sur France Inter. Nous emmène en Turquie ce soir et le saviez-vous, la Turquie est la première destination des déchets plastiques européens. 700 000 tonnes au moins en 2024. Depuis que la Chine a banni leur importation en 2018, c'est vers la Turquie donc que se tournent les Européens, donc nous. Nos déchets arrivent jusqu'à Adana, c'est dans le sud-est du pays, par container. Adana est désormais capitale du plastique, c'est comme ça que les Turcs la surnomment. Et le reste, c'est Marie-Pierre Véraud qui raconte.
Il ne faut pas beaucoup chercher à Adana pour tomber sur des déchets plastiques. Seuls 40% des plastiques importés d'Europe peuvent effectivement être recyclés. Le reste finit dans des décharges sauvages, enterrés dans les sols ou brûlés de manière illégale. Yachar Gökolu, un vieux militant écologiste, nous a donné rendez-vous près d'un canal de la ville qui se jette dans le fleuve Seyhan, partout du plastique à perte de vue.
Nous sommes le pays qui recevons le plus de déchets en provenance d'Europe. C'est une honte. C'est honteux pour notre pays. Honteux pour notre peuple. Ce canal, c'est un canal de drainage. L'eau sert à arroser les terres agricoles, puis rejoint la Méditerranée. Mais le canal passe en plein milieu des industries de recyclage du plastique.
Et elle rejette des eaux bourrées de microplastiques, explique Sedat Gundodou, professeur de biologie marine à l'université de Chukurova.
Cette région est la plus polluée de toute la Méditerranée. Les deux fleuves Seyhan et Jeyhan sont les fleuves les plus pollués par les microplastiques. La plupart des usines qui importent les plastiques n'ont pas d'installation correcte de protection de l'environnement. Elles ne disposent pas de traitement des eaux usées, elles ne prennent aucune mesure pour éliminer ou réduire les composants organiques volatiles générés durant le recyclage et collecter les microplastiques. Et elles abritent des activités illégales, font travailler des réfugiés. Certaines ne disposent même pas d'autorisation, mais elles reçoivent tout de même ces déchets importés.
La pollution est donc générée aussi durant le processus de recyclage. L'eau, l'air, les sols des usines, tout est pollué. Et la main-d'œuvre, souvent syrienne, travaille dans des conditions inhumaines. Le bruit, la chaleur, sans aucune protection, dénonce Yachar.
Il leur faudrait des gants de protection. Mais non, ils ont bien des gants, mais ce sont des gants en caoutchouc pour laver la vaisselle. C'est à peine croyable. Normalement, il faudrait avoir de bons masques qui protègent, mais on ne leur donne même pas de masques chirurgicaux. Vous savez, ces femmes et ces hommes, quand ils travaillent dans les champs par ici, ils se protègent en couvrant leur visage avec des tissus, c'est la coutume. Eh bien, ils font pareil dans les usines. Ils mettent un foulard sur leur visage. Je les ai vus, ils n'ont pas d'autre protection.
Tous respirent un air toxique, explique Selahattin Menteche, oncologue.
Dans notre pays, il n'existe pas de données solides sur la prégnance du cancer. Mais nos recherches sur les personnes qui travaillent dans les usines de traitement du plastique montrent qu'il y a beaucoup plus de cas de cancer dans ces populations-là et dans celles qui habitent à proximité de ces usines. Populations chez lesquelles on trouve désormais des particules de plastique dans le placenta et dans le cerveau.
Les terres agricoles d'Adana sont polluées, elles aussi. Selim Hach Daleu est un influenceur, 1 million d'abonnés sur Instagram. Pour dénoncer la pollution plastique, il organise des concerts dans des décharges sauvages. Et il a un message pour les Européens. Ne croyez pas vous débarrasser du problème en nous envoyant vos déchets plastiques.
Sur nos terres, on fait pousser des tomates, des poivrons, des aubergines, toutes sortes de fruits et de légumes, des pastèques. Et tout cela nourrit la Turquie et le monde. Parce que depuis Adana, on exporte les pastèques, les agrumes, le coton, tous cultivés sur ces terres empoisonnées. Ils sont donc cancérigènes. Et ces tomates, ces agrumes et ces pastèques empoisonnent maintenant le monde entier.
Pour ne plus s'empoisonner, prévient notre biologiste marin, il faudrait générer moins de plastique, car seuls 10% des plastiques aujourd'hui produits dans le monde sont effectivement recyclables.
Marie-Pierre Véro pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Kevin, nous sommes d'abord en Chine où a commencé la saison des examens.
Oui, notamment plus de 13 millions d'étudiants qui passent les tests pour tenter d'entrer dans les plus prestigieuses universités du pays. En ce moment, des examens très exigeants où la concurrence fait rage et où la tricherie donc ne doit pas avoir sa place. D'où cette décision assez radicale prise par les géants de la tech chinois, suspendre l'accès à certains outils d'intelligence artificielle génératifs pendant cette période. Dans un article publié hier, le Guardian a repéré des témoignages sur les réseaux sociaux de Chinois qui affirment que l'accès à certains outils IA est impossible en raison de ces examens. DeepSeek, par exemple, le concurrent à ChatGPT dont on a beaucoup parlé il y a quelques mois, indique que son service n'est pas disponible en ce moment aux heures des épreuves pour, je cite, « garantir l'équité du concours ». D'autres entreprises ont désactivé leur fonction de reconnaissance d'image, là aussi pendant les heures d'examen. Voilà donc toute la Chine privée de ces outils, parfois choix précieux hein, pour ceux qui travaillent. À l'inverse, plusieurs régions chinoises ont annoncé qu'elles allaient mettre en place dans les salles d'examen de la surveillance par intelligence artificielle pour détecter, je cite, les comportements anormaux, comme les chuchotements par exemple.
Allez, nous voici en Inde avec un trafic qui prend de l'ampleur.
Oui, les douaniers ont arrêté hier à l'aéroport de Mumbai un passager en provenance de Thaïlande qui transportait une centaine d'animaux sauvages dans ses bagages, des dizaines de lézards, des tarentules, des tortues, des oiseaux, des opossums et autres petits marsupiaux originaires d'Australie. Une saisie considérable d'après les autorités indiennes qui intervient une semaine après l'arrestation, là encore à l'aéroport de Mumbai, d'un autre passager, lui aussi arrivé de Thaïlande avec une quarantaine de reptiles, notamment des serpents venimeux. Ce genre de découverte est quasi hebdomadaire hein, d'après les douaniers. Selon l'ONG Trafic qui surveille le commerce de la faune et de la flore au niveau international, plus de 7000 animaux ont été saisis sur les lignes aériennes entre la Thaïlande et l'Inde ces trois dernières années, des espèces sauvages très souvent protégées dont la vente est strictement interdite. Près de 2 millions d'animaux exotiques sont échangés illégalement chaque année dans le monde.
Et puis nous sommes en Italie, où un club de foot historique pourrait bien disparaître.
Oui, il y a trois semaines, Brescia célébrait son maintien en Serie B, c'est la deuxième division. Mais selon plusieurs journaux italiens ce week-end, le propriétaire du club n'a pas payé la dette de 3 millions d'euros dont il devait s'acquitter avant vendredi. Résultat, rétrogradation administrative en troisième division. Sauf que toujours d'après la presse italienne, le club de Lombardie ne s'est pas inscrit en troisième division et va se déclarer en faillite. Un coup de tonnerre. 114 ans après sa naissance, il Breccia Calcio, comme on l'appelle là-bas, va donc sans doute cesser d'exister. Point final de la gestion erratique de Massimo Cellino, l'homme d'affaires italien propriétaire du club depuis 2017. Situé entre Bergame et Vérone, Breccia n'a jamais remporté de titre majeur, mais fait partie de l'histoire du foot italien avec 23 saisons disputées dans l'élite et des grands noms qui sont passés par ce club comme Andrea Pirlo ou Roberto Baggio, deux légendes italiennes du foot. C'est très rare qu'un club disparaisse complètement. Quand même.
Vous êtes très foot en ce moment.
Oui, okay.
Vous êtes remis au sport ou quoi?
Je m'arrête. Oui, un petit peu, mais je m'arrête là. Je promets.
Allez,
en
à demain, Kevin. Vous pouvez filer à l'anglaise. Voici les Clash, London Calling. À tout de suite.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning out. The imitation zone. Forget it, brother. You can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes. The sun's zooming in, engines stuck on it. The wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning.
Colline des Clash. Vous êtes dans Un jour dans le monde et le monde à 18h49. C'est Frédéric Seiss.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Et Frédéric, vous nous parlez ce soir d'une petite ville espagnole qui, selon vous, raconte un bout de l'époque.
Toute petite ville, 1200 habitants, Figueruelas, dans la province de Saragosse, nord de l'Espagne, elle s'apprête à accueillir 2000 travailleurs chinois, c'est-à-dire presque deux fois sa population. Tous viennent construire une gigafactory, une usine géante de batteries électriques, des ingénieurs, des ouvriers employés par la multinationale CATL, multinationale chinoise, l'un des géants mondiaux de la fabrication de batteries. Cette implantation dans la péninsule ibérique raconte d'abord une chose, l'avance qu'a prise la Chine dans ce domaine. L'entreprise CATL domine la technologie lithium-métal, l'un des deux grands types de batteries. Alors il y a bien quelques concurrents coréens, d'autres chinois, un peu d'européens, mais CATL est incontournable. La preuve, ils sont donc appelés jusqu'en Espagne. Leurs batteries équiperont les Peugeot et les Citroën qui sortiront d'une usine voisine, toujours dans cette même commune de Figueruelas. Investissement de 4 milliards d'euros. Ouverture des chaînes de production prévue dans 2 ans, si tout va bien.
Si tout va bien, car avant même le premier coup de pelleteuse, il y a déjà un problème logistique.
Oui, où loger ces 2000 travailleurs chinois? Pas simple. Comme un peu partout en Europe, la région fait face à des pénuries de logements. L'offre est égale à zéro, explique même le maire de la commune dans la presse espagnole. Parmi les pistes explorées, la construction express de baraquements, le recours à des mobilhomes, sans convaincre pour l'instant, car les ingénieurs et les manutentionnaires chinois doivent rester sur place plusieurs années, puis une grande partie d'entre eux quitteront l'Espagne à l'issue du chantier, chorégraphie classique de la main-d'œuvre mondialisée.
L'histoire, Frédéric, de cette petite ville espagnole raconte aussi un chassé-croisé économique et géopolitique.
Oui, il y a 45 ans, c'est une autre usine qui sortait de terre à Figueruelas. À l'époque, aucune trace d'entreprise chinoise. Il s'agissait de General Motors, le groupe américain, alors au fait de sa puissance, venu produire sur place les voitures destinées au marché européen. Dans la modeste cité espagnole, les anciens se souviennent avoir vu débarquer des centaines de travailleurs américains, c'était en 1980. Évidemment, le télescopage des deux époques est riche de symboles, car depuis, General Motors, sur le déclin, s'est désengagé de la région. L'entreprise américaine a été fauchée par la crise financière de 2009. Au revoir les États-Unis, bonjour la Chine, ou comment illustrer que dans ce secteur de locaux, de l'auto, c'est Pékin qui a pris le volant.
Car la Chine s'implante fortement dans l'industrie automobile européenne.
Oui, elle ne se contente pas d'exporter des véhicules vers notre marché. Ces entreprises créent des usines, des bureaux, des centres de recherche sur le sol européen. Pour des raisons logistiques, bien sûr, produire au plus près des consommateurs, éviter les stocks, les coûts de transport, mais aussi et surtout pour des raisons stratégiques. Il s'agit de contourner les surtaxes européennes qui touchent les voitures made in China. D'ailleurs, autre exemple, BYD, le géant chinois des voitures électriques, a choisi la Hongrie pour sa future usine européenne. La Hongrie de Viktor Orban, dont le positionnement eurosceptique et anti-atlantiste n'est pas pour déplaire à Pékin.
Frédéric Seyss, merci beaucoup. À demain, le mardi, Caroline Gillet ouvre les portes des institutions européennes. Qui est là?
France Inter, le 18-20.
Et on la connaît, Caroline, votre personnage de la semaine. On l'a déjà rencontré, c'était il y a quelques mois, fonctionnaire du Parlement européen pour un second épisode.
Oui, une de vos préférées de l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Gaia Manco, une Italienne totalement flamboyante qui voulait être chef à la place du chef.
Je me souviens très bien.
Elle a changé de travail. Avant, elle s'occupait de la mobilisation citoyenne au service comme du Parlement. Elle est désormais à la diplomatie interparlementaire. Je ne savais pas que ce poste existait. En fait, elle fait le relais entre le Parlement européen et les parlements nationaux. Et le jour où je la retrouve, elle est en télétravail.
Coucou, c'est Caroline.
Pas de rayon X à l'entrée, pas de badge. C'est moins pratique pour visiter les institutions européennes, mais ça permet de collecter des informations plus insolites pour mieux connaître nos fonctionnaires. Gaïa, même en télétravail, est habillée d'un pull incrusté de diamants en plastique. J'ai pu croiser le chien dont elle s'occupe en ce moment. Sur son ordinateur, elle a collé un petit papier découpé dans un magazine.
Democracy is like love. You have to do it every day. Donc la démocratie est comme l'amour. Il faut le faire tous les jours.
Et puis enfin, je découvre que son hobby, c'est d'apprendre le chinois. J'ouvre son livre, une page au hasard. Je lui demande ce qui est écrit.
Yao, ça c'est un nouveau mot. Langjing. Ça, c'est très chinois dans le sens que c'est un texte qui te dit que même si tu te sens le meilleur dans une discipline, tu dois toujours être humble et penser que le monde est grand et donc il y a d'autres qui pourraient être meilleurs que toi et comme ça.
Pour ceux et celles qui se rappellent de Gaïa, on peut dire, je pense, qu'elle est absolument tout sauf humble.
Ce n'est pas exactement ma façon de voir moi-même et le monde. Mais
elle a de l'autodérision et ça sauve tout. Parlons de travail. C'est quoi son nouveau poste?
Mon travail, c'est de faire parler le Parlement européen avec d'autres parlements. Quand il y a une loi, un rapport qui est discuté au Parlement européen, il y a une partie de discussion avec le Parlement national. Parce qu'on dit souvent, à tort, que les lois européennes sont imposées. Et moi, je peux témoigner du fait qu'il y a beaucoup de discussions aussi, par exemple, avec les représentants élus dans les pays membres.
Et je n'étais visiblement pas la seule à ne pas connaître cette étape du travail législatif européen.
Quand j'en parle à mes anciens collègues, je dois tout leur expliquer.
Concrètement, je l'explique pour vous et pour les anciens collègues de Gaïa, il y a un représentant de chaque chambre nationale qui vit à Bruxelles et qui travaille à favoriser les échanges entre les élus européens et leurs collègues dans leurs pays respectifs. Je lui demande de donner un exemple concret d'une réunion qu'elle organise en ce moment. Elle me dit « Oui, en ce moment, ce que j'organise, c'est sur
les crimes contre l'environnement et comment les pays s'apprêtent à transformer cette directive dans leur législation nationale. » Et on aura des parlements, par exemple, d'Allemagne, de Belgique et d'Italie, qui vont parler avec les députés de leurs expériences. Et ça, c'est particulièrement important au niveau européen parce que l'environnement n'a pas de frontières. Et par exemple, on sait bien qu'en Italie, il y a des problèmes liés à comment on traite les déchets. Il y a eu des scandales. Donc, c'est particulièrement important de savoir comment l'Italie a réussi ou est en train de réussir ou quelles sont les difficultés pour sortir de là et comment ça se fait à travers des lois européennes.
Comme toutes les réunions parlementaires européennes, celle-là sera disponible en web streaming. Alors, en bon élève, à la date prévue, je me connecte.
Je souhaite la bienvenue aux membres des parlements nationaux.
Et tout ressemble à ce que m'avait décrit Gaïa. Je me surprends parfois à écouter avec enthousiasme cet échange filmé. Il y a un monsieur chauve qui ouvre les débats.
Le 11 avril 2024, j'aimerais d'emblée donner la parole à monsieur Félix Bloch.
Et celui qui prend la parole ensuite est moins chauve mais porte des lunettes. Il travaille à la commission, même si quand on n'a pas l'image, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est la même personne qui parle comme c'est la même dame qui traduit vers le français. On l'écoute quelques instants.
Nous savons tous les délits environnementaux. Il s'agit de la quatrième activité criminelle de par le monde et ces délits se développent à un rythme de 5 à 7% de plus chaque année. Cette directive comporte aujourd'hui des dispositions permettant de soutenir tous ceux qui font rapport de délits environnementaux, qui fournissent des preuves ou qui coopèrent d'une manière ou d'une autre avec les autorités dans le cadre des procédures en justice. Interruption du président. Monsieur, je vous propose de ralentir. Oui, monsieur le président, mais j'essaie de m'en tenir aux 10 minutes qui m'ont été imparties. Bon, très bien. Alors, je vous laisse un peu de temps supplémentaire à condition que vous ralentissiez le rythme.
Ensuite, des représentants de différents pays prennent la parole.
Nous allons passer à la Belgique, qui va nous parler de la transposition.
L'homme qui parle pour la Belgique dit des choses très intéressantes.
Membre du comité sur les questions transversales du Sénat.
Je mettrai bien sûr le lien, ainsi que des photos de Gaïa et de son pull.
Allez-y.
Sur le site de la chronique.
Merci.
Puis un représentant de l'Allemagne prend la parole, un de la Roumanie, un de l'Italie, que des hommes. La transposition de cette directive dans le droit national doit donc se faire avant mai 2026. J'apprends que la Commission a organisé des ateliers avec des experts pour aider les pays avec cette transposition. Ça me donne envie d'y assister. Gaïa, avant tout, aime ce travail parce qu'elle a le sentiment qu'il fait avancer la démocratie. Mais aussi, me dit-elle, parce qu'il y a, et elle le dit avec gourmandise, du protocole.
Moi, j'aime aussi cet aspect un peu protocolaire, dans le sens qu'on a notre propre siège avec la chose écrite « relation avec les parlements nationaux ». Donc, il y a cette partie un peu…
Un peu glamour.
Oui, un peu… Bah, glamour, je ne sais pas, c'est quand même une commission parlementaire.
Que diraient les Chinois
De dire ça, ce n'est pas beaucoup d'humilité. Que moi, j'aime bien que j'ai mon propre siège dans la salle, comme ça.
Voilà, merci à Gaïa Manco et à la semaine prochaine.
Et merci à vous, Caroline. La semaine prochaine, évidemment, le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Filly, juste après le téléphone sonne. Bonsoir, Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20, Philippe, ce soir, on se demande si les enfants ont un second degré.
Eh bien, écoutez, ce vocal de l'or.
Mon fils de 6 ans maîtrise déjà l'ironie, et c'est notamment grâce à des lectures de BD type Astérix. Je ne doute pas que quand il sera plus grand, il maîtrisera le second degré.
Le dessinateur Jules, notamment, sera avec nous.
Allez, 01 45 24 7000 pour discuter avec nous. C'est le même chemin pour vos pouces par WhatsApp.